Carnet de région.
Gard,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croustillon.
Bonjour, bienvenue dans Carnet de région, votre magazine d'actualité régionale produit par plusieurs radios associatives du Languedoc-Roussillon. Au menu de cette édition, le collège Paul Dardet de l'Audève et les écoles de la ville sortent du dispositif de l'éducation prioritaire, une décision qui inquiète enseignants et parents d'élèves. Éducation toujours avec à Montpellier une nouveauté, le premier centre spatial universitaire ouvrira ses portes dans 2 ans sur le campus Saint-Priest. À Carcassonne, l'entreprise Pilpa a été sauvée par le courage de ses salariés, Pilpa qui se nomme désormais la Fabrique du Sud. Et enfin, la production d'huile d'olive se développe dans les Cévennes grâce à la mise à disposition d'un moulin à huile à Aulas.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Comme 4 autres établissements en Languedoc-Roussillon, le collège Paul Dardet de l'Audève et les écoles de la ville sortent du dispositif de l'éducation prioritaire présenté cette semaine par la ministre de l'Éducation nationale. La décision inquiète les enseignants qui manifestent ce mercredi matin devant la sous-préfecture avec les parents d'élèves. Alors, quelles seront les conséquences? On écoute Lazare Resnick, directeur de l'école César Vinas, au micro d'Alain Mendes de Radio L'Audève.
Nous sommes ici pour protester contre le projet de fermeture de la ZEB de l'Audève, puisque nous considérons que l'Audève est en zone d'éducation prioritaire pour d'excellentes raisons. Il y a une précarité qui est partagée par beaucoup de familles sur cette ville, qui font que les élèves sont souvent en difficulté. Et pour ces raisons, on pense qu'il est important que l'Audève puisse rester en ZEP.
On avait parlé du collège, mais plus généralement, ce sont les écoles aussi qui seraient touchées.
Effectivement, la ZEP est liée en fait au secteur de collège. Et la difficulté que l'on a, c'est que le collège de l'Audève recrute en fait sur l'Audève centre-ville, mais aussi tous les villages alentour. En conséquence, les résultats du collège sont plutôt satisfaisants, on va dire, parce qu'il y a au niveau du collège une plus grande mixité. Ça n'empêche pas qu'au niveau de l'Audève, il y a des réelles difficultés qui sont là, qui sont pointées, qui sont connues de tous. Hein. Nous ne sommes pas dans une zone urbaine sensible pour rien. Et on le voit bien au niveau des enseignants que l'ambiance dans les classes est déjà parfois assez compliquée parce que voilà, on a des élèves qui sont quand même assez nombreux en difficulté. Effectivement, moins de moyens, ça signifie en premier lieu des classes plus chargées et c'est le premier critère vraiment qui nous préoccupe, hein, plus que tout autre. Après, la ZEP permet aussi un lien entre les écoles et le financement de projets qui sont à destination des élèves, donc c'est un autre aspect. Et puis il y a différentes choses qui sont liées à la ZEP qui apportent vraiment beaucoup de choses aux élèves.
Alors, comment essayer de faire changer les choses, manifester aujourd'hui, mais quelles actions ont été entreprises ou vont être entreprises pour essayer de faire peut-être bouger les lignes?
Alors vous le dites, pour l'instant, bien, nous sommes là devant la sous-préfecture. Nous ne serons pas reçus aujourd'hui, mais on va déposer une motion. Des collègues du second degré ont fait la démarche aussi par rapport au rectorat. Ils ont été reçus. Donc notre premier objectif, c'est de faire savoir que les habitants de l'Audève n'acceptent pas cette décision. Et par la suite, nous verrons, avec bien sûr les parents d'élèves qui doivent être moteurs dans tout ça, les actions qu'on voudra bien collectivement entreprendre.
C'était Lazare Resnick, directeur de l'école César Vinas, au micro d'Alain Mendes de Radio L'Audève. À Montpellier, le premier centre spatial universitaire ouvrira dans 2 ans sur le campus Saint-Priest. Enseignants, chercheurs, étudiants et industriels, tous seront dans le même bâtiment. Un reportage de Romain Bercher de RCF Maglonero.
La première pierre de ce futur centre spatial universitaire a été posée cette semaine. 2000 mètres carrés vont sortir de terre dans 2 ans. Un bâtiment tout neuf, avec une spécialité, les nanosatellites, un moyen de se différencier de Toulouse, autre pôle aérospatial, pour Michel Robert, président de l'Université Montpellier 2.
Nos collègues toulousains étaient plutôt sur des actions, sur des grandes opérations, les grands satellites et autres. Et cette niche, personne n'a vraiment exploité. Donc c'est un pari. C'est un pari parce que ces petits satellites, évidemment, n'ont pas les mêmes caractéristiques que les grands satellites, mais leurs coûts sont très faibles. Ils peuvent servir à des missions spécifiques. Par exemple, analyser la tenue des composants aux radiations. Donc ça permet de tester ces composants avant de les produire. Et par exemple, aussi de belles réalisations à impact sociétal.
Les étudiants de cette université Montpellier 2 travaillent déjà sur ces micro-satellites. Le plus bel exemple, c'est Robusta 1, l'unique satellite universitaire validé par l'Agence spatiale européenne pour aller dans l'espace. Ces premiers travaux de ce centre sont déjà connus. Par exemple, un projet de satellite pour mieux prévenir les épisodes Cévenol en Méditerranée, comme le confirme Michel Courtois, président de la Fondation Van Allen.
Le premier satellite qui est en cours de développement ici, qui est un satellite stabilisé trois axes, en fait va étudier la méthodologie et valider le principe d'avoir des mesures à partir des signaux GPS recueillis sur des bateaux qui sont en Méditerranée pour mesurer le contenu de vapeur d'eau, introduire ça dans les modèles de Météo France et voir qu'est-ce qu'on gagne au niveau de la précision et de la prédictabilité au niveau des événements cévenols, puisque la source principale, c'est une montée d'humidité sur la Méditerranée.
Il devrait donc y avoir d'autres nanosatellites montpelliérains dans l'espace dans les prochaines années.
C'était un reportage de Romain Bercher d'RCF Maglonero. Sauver des eaux par le courage de ses salariés et le coup de pouce des institutions. L'entreprise La Fabrique du Sud est une SCOP de 19 adhérents qui a remplacé l'entreprise Pilpa de 180 salariés et qui a démarré ses activités en avril 2014. Mercredi soir, à la maison de la région de Carcassonne, on découvrait les bûches glacées préparées pour les fêtes de fin d'année. Un reportage de Nathalie Dessos d'RCF Pays d'Aude.
Ne vous posez plus de questions pour choisir quel sera le meilleur dessert pour votre repas de Noël. Vous pouvez sans aucun doute opter pour les bûches de Noël de la Fabrique du Sud. Elles sortent officiellement ces jours-ci dans tous les magasins de l'Aude et des départements limitrophes. La composition des bûches, l'élan de l'entreprise, au micro de RCF. Maxime, le directeur de la Fabrique du Sud.
Alors effectivement, on présente notre bûche de Noël, c'est notre fierté, c'était pas prévu cette année qu'on fasse des bûches, on était juste parti sur une gamme traditionnelle de pots et on a réussi à sortir ces bûches que tout le monde attend et que tout le monde nous réclame. Donc il y a une association de trois parfums, donc il y a framboise, chocolat blanc, chocolat grand cru, chocolat géant du Jat qui est un chocolat praliné, c'est fabuleux, et ensuite on a touron, abricot. Qui est original, ce sont des associations de parfums qu'on ne trouve pas ailleurs. Voilà, donc que des bons produits avec l'abricot, c'est l'abricot du Roussillon, le chocolat, comme d'habitude, on travaille avec ses mois. Et le touron, c'est pareil avec un petit fabricant à côté de Perpignan. Voilà. Donc on est franchement content pour une première année, pour un produit où on ne savait pas trop où on allait, d'avoir 9000 produits qui se vendent et qui vont pouvoir être dégustés dans tout le Carcassonnais. Et aussi les départements limitrophes. Donc il a fallu investir dans un fraiseur, il a fallu investir dans un extrudeur qui donne la forme de la bûche. Il a fallu investir aussi sur un tapis, l'endroit sur lequel est extrudée la bûche. Il a fallu aussi faire des moules pour les supports de bûche. Quand vous verrez ces bûches qui sont magnifiques dans les rayons, donc il faut penser que dessus il y a une cloche, dessous il y a un socle. Ben, tout ça, il a fallu le faire. Il a fallu le développer. Mais pour un produit qui est super, vraiment bon, c'est pas parce que c'est nous qui le faisons, on en est très fiers et qui est vraiment abouti.
Maxime, directeur de la Fabrique du Sud, présentant les toutes nouvelles bûches de Noël donc, qui sont proposées en magasin à partir de ce week-end. Et il faut compter entre 11 et 12,50 euros pour l'acquisition d'une bûche glacée. Coup de chapeau à Monsieur Fabre, le directeur technique qualité de l'entreprise. Cette présentation de bûches ne s'est pas faite sans les élus. Laurie Saint-Martin représentait l'agglo de Carcassonne qui a donné un coup de pouce immobilier il y a quelques mois en préemptant une partie des bâtiments. Et il y avait aussi Henri Garino représentant le conseil régional. Nous l'écoutons tout de suite.
Bien entendu, on est allé les soutenir. On les a accompagnés pour l'acquisition de matériel puisque nous avons voté une subvention de plus de 100 000 euros pour l'acquisition du matériel. Et puis on a voté aussi une avance de 45 000 euros sur le fonds de roulement de telle sorte qu'ils puissent se démarrer dans les meilleures conditions. Écoutez, en tout cas, dans ce secteur-là, il y a eu de la croissance et il y a eu de l'emploi. Donc je pense que c'est une solution parmi d'autres. J'ai reçu une personne qui, sur une miroiterie à Carcassonne, qui est en liquidation, et les salariés, il y a 5 ou 6 salariés qui sont en situation de pouvoir créer une scope. Donc, les PILPA sont en train de faire école.
L'économie sociale et solidaire en question donc pour PILPA l'an dernier, peut-être pour cette miroiterie carcassonnaise et éventuellement un jour on en parlera pour l'entreprise Chipi. Sachez que les salariés de Chipi mènent leur combat eux aussi. On pourra les retrouver au marché de Noël car la municipalité leur prête un chalet pour qu'ils puissent s'exprimer, rencontrer la population. Un chalet sur la place Carnot au cœur de la ville de Carcassonne donc entre le 13 décembre et le 4 janvier.
Reportage de Nathalie Dessos, d'RCF, Pays d'Aude. L'olive est un des marqueurs du pourtour méditerranéen. On y pense beaucoup moins quand on parle des Cévennes. Et pourtant, depuis des générations, les olivettes, ces petites parcelles d'oliviers, comme on les appelle dans les Cévennes, se transmettent de génération en génération. Après un grand gel dans les années 50, beaucoup de ces olivettes ont été laissées à l'abandon. Depuis peu, ces olivettes connaissent un regain d'intérêt, notamment grâce au travail d'une association qui gère le moulin à huile du côté du petit village Cévenol d'Aulas. Reportage de Rémi Goujon de Radio Escapade.
Pourquoi on a formé cette association? Pour avoir un moulin qui nous permette aux gens qui avaient des petites quantités d'olives de pouvoir les faire triturer localement. Et surtout de revaloriser l'olivette Cévenol, qui en avait bien besoin, puisqu'ils avaient subi un gel en 56, et depuis, ils étaient tombés plus ou moins à l'abandon, mis à part quelques-uns qui avaient fait l'effort de les recéper, d'en replanter, mais qui du coup amenaient leurs olives assez loin, puisque le moulin le plus près, c'était Saint-Jean-du-Gard. Voilà, donc déjà de les amener assez loin. Et voilà, notre démarche, c'était en fin de compte, à travers ce moulin, de revaloriser l'olivette dans l'arrière-pays. C'est des petites surfaces. Avant, les gens, souvent, s'en servaient pour... ça faisait un plus, puisqu'ils avaient de l'huile qui leur permettait d'avoir... mais il n'y avait pas de beurre à l'époque, ni rien, donc ils étaient bien contents d'avoir de l'huile d'olive. Et souvent, là où il y avait les olivettes, il y avait des vignes également. Donc, dans des terrains qui étaient exposés au sud, bien exposés, sur des traversiers, d'où la difficulté de on ne peut pas parler de rendement ni rien, comme évidemment les grandes propriétés qui sont en Provence ou ailleurs. Mais enfin, il y a quand même, par contre, on a nous, essentiellement, c'est la négrette que nous avions ici, que nos anciens avaient plantée, et qui nous fournit une très bonne huile d'olive, hein, qui est forte, qui a de l'ardence. On l'avait fait analyser donc au cours de nos campagnes précédentes et on a obtenu de bons résultats au niveau de l'oxydation, de l'acidité, de tout ça. Et éventuellement, le jour où on arriverait à avoir une production à peu près convenable, eh bien, on pourrait même obtenir une AOC et avoir une huile reconnue, quoi, exactement comme quelques années l'oignon ou d'autres choses, un produit réellement local.
C'était un reportage de Rémi Goujon pour Radio Escapade. C'était votre magazine Carnet de Région, le dernier de cette année 2014, présenté aujourd'hui par Emmanuel Hullier pour Radio FM+. Pour le mois de janvier prochain, la rédaction en chef sera assurée par Gilles Geoffrey de Radio Aviva. Au revoir à tous et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.